Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Françoise Combes, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes astrophysicienne, astronome à l'Observatoire de Paris. Vous avez été présidente de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Vous avez dirigé le programme national Galaxie du CNRS. Vous présidez le COFUSI, Comité français des unions scientifiques internationales. Et vous êtes depuis 2004 membre de l'Académie des sciences. Vous dirigez la revue européenne Astronomie et Astrophysique, mais vous êtes également, et c'est pourquoi nous sommes avec vous ce matin, professeur au Collège de France depuis le 18 décembre 2014, date de votre leçon inaugurale. Intitulée « La matière noire dans l'univers », cette leçon est publiée dans la petite collection bleue chez Fayard, qui publie d'ailleurs toutes les leçons inaugurales des professeurs du Collège de France. Et on peut écouter également cette leçon inaugurale sur le site internet du Collège de France. Vous vous intéressez à des objets très poétiques, comme la naissance des étoiles. Nous allons en parler, mais comment une jeune fille douée décide-t-elle de devenir astrophysicienne? Quelles sont les lectures, les maîtres, les occasions, les rencontres qui vous ont conduite à entamer cette carrière?
Oui, en fait, j'étais surtout intéressée par la physique et l'origine de l'univers, donc la cosmologie. Je n'ai pas été, comme beaucoup de mes collègues, astronome amateur, par exemple, c'est-à-dire regarder dans les télescopes. Dans ma jeunesse, en fait, je n'avais pas vraiment regardé dans un télescope avant d'en faire mon métier. Mais j'étais intéressée par l'origine de l'univers, la cosmologie, tous les modèles que l'on peut faire pour savoir comment le Big Bang a eu lieu et les galaxies sont formées. Donc j'avais commencé avec Avery Schatzman, qui était un astrophysicien à l'époque et qui avait des théories assez extraordinaires. Et justement, il travaillait à cette époque, dans les années 75, sur des modèles d'univers symétriques, matière-antimatière. Et on essayait d'expliquer comme ça pourquoi il y avait un accès de matière dans l'univers.
Et donc, c'est toujours une fiction, d'une certaine manière, cette naissance de l'univers. On suppose, on a des théories, on élabore des scénarios, en quelque sorte, Françoise Combes.
Oui, exactement, oui. Pour l'instant, on n'en est encore qu'à des modèles. Alors évidemment, on a quand même beaucoup d'observations qui nous confirment cela. On sait bien qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire un état de l'univers très, très concentré, où toutes les galaxies que l'on voit autour de nous étaient vraiment concentrées en un point. Donc c'est quelque chose de très très chaud, où les galaxies n'existaient pas, et l'univers était pratiquement homogène. Et on se demandait vraiment à cette époque pourquoi il y avait un accès de matière, parce qu'on est vraiment toujours pour les symétries, les univers très très uniformes, homogènes, rien ne dépasse. Et en effet, il y a un petit excès de matière sur l'antimatière, mais au départ, tout s'annihile, il y a énormément de rayonnement, et dans le rayonnement, on forme la matière, l'antimatière, tout ça s'annihile. Et normalement, s'il y avait eu symétrie parfaite, on ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir de galaxies.
Pourquoi ?
Parce que la matière s'annihile avec l'antimatière, donne du rayonnement, de la lumière, et puis plus rien ne reste. On n'a pas assez d'éléments pour former l'hydrogène, le carbone dont nous sommes faits. Donc on a essayé de comprendre pourquoi il y avait un excès de matière, et puis on a fait des modèles symétriques. Donc il y avait des galaxies, puis des antigalaxies, etc. Et finalement, après beaucoup de calculs, on a vu que ça ne marchait pas. Et en effet, les observations nous ont montré que ça ne marchait pas, parce que les galaxies, en s'annihilant avec des antigalaxies, auraient fait beaucoup, beaucoup de rayons gamma, de photons de très haute énergie. Et peu à peu, on a pu essayer de détecter ces photons et il n'y en avait pas.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est le scénario que vous développez avec vos collègues internationaux?
Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a un tout petit excès, mais alors vraiment de 1 milliardième de matière sur l'antimatière. Donc tout s'est annihilé, mais il est resté 1 milliardième, et c'est de ce 1 milliardième dont nous sommes nés. Alors le Big Bang est toujours là, et même confirmé énormément.
Avec donc une explosion originelle.
Voilà, une explosion originelle, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Ceci a été confirmé par beaucoup d'expériences, et notamment l'observation d'un fond de lumière, fond de photons, fond cosmologique, vestige de ce Big Bang, et qui, à la température qu'a l'univers aujourd'hui, c'est-à-dire au départ c'était des milliards de degrés, et aujourd'hui c'est 3 degrés seulement, 3 degrés Kelvin, donc au-dessus du zéro absolu. Et ça, on le mesure en regardant des rayonnements micro-ondes, un peu comme dans votre four micro-ondes. C'est exactement ça, c'est des ondes millimétriques. Donc on observe ce fond cosmologique, et ça nous donne des indices pour savoir reconstruire le début de l'univers, le Big Bang.
Françoise Combes, quand vous parlez de l'univers, vous parlez de l'univers que nous connaissons ou de la pluralité des univers possibles?
Ça, c'est vrai qu'on a pensé qu'on n'était peut-être pas les seuls, qu'il y avait un univers et puis peut-être plusieurs univers.
Plusieurs soleils, en tout cas.
Alors là, oui. Ça, c'est sûr que des systèmes solaires, comme le Soleil et ses planètes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des milliards dans la Voie lactée est notre galaxie qui contient toutes les étoiles. Et on pense qu'il y a même plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, donc sans doute plus que 200 milliards. Aïe. Et puis il y a aussi 200 milliards de galaxies, donc ça fait encore énormément de planètes. Donc d'autres mondes au sens de planètes, il y en a énormément. On en a déjà détecté 2000 exoplanètes. Donc depuis 20 ans, on recherche ces planètes, on les a détectées. Et comme ces planètes ne rayonnent pas beaucoup, on les détecte par la perturbation qu'elles font sur leur soleil. Donc si la planète tourne autour de leur soleil, elles font un petit décalage de vitesse. Donc on mesure l'effet Doppler de cette étoile-là et on voit qu'il y a une planète qui tourne autour, par exemple. Ou alors on voit aussi par des effets d'ombre, c'est-à-dire que la planète passe devant leur étoile et font une ombre sur leur étoile. C'est un petit peu comme une éclipse, si vous voulez, une petite éclipse. Et on voit la planète comme ça. Donc il y a des tas d'effets un petit peu indirects. Et puis quand la planète est assez brillante, on a pu parfois détecter la lumière réfléchie sur la planète et donc la voir directement.
Donc si Giordano Bruno a été brûlé à cause de la pluralité des mondes, il avait en effet raison
Il avait raison, oui, parce que lui, il pensait à plusieurs planètes, plusieurs systèmes solaires, plusieurs... Et ça, en effet, on le voit aujourd'hui.
Vos activités de recherche portent sur la formation et l'évolution des galaxies. Donc on connaît la Voie lactée, mais ça paraît tout à fait énorme.
Ah, c'est énorme, oui.
C'est combien de planètes et combien d'étoiles?
Alors les étoiles, évidemment, on en a 200 milliards à peu près dans la Voie lactée. Évidemment, on ne les compte pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la masse de la galaxie. Alors comment on mesure cette masse? C'est que tout tourne autour du centre, comme un disque, un manège si vous voulez. Tout tourne et donc avec la vitesse, il y a une force centrifuge qui est équivalente à une force d'attraction. Et donc cette force d'attraction nous donne la masse qui est à l'intérieur et qui permet aux autres étoiles de tourner. Donc c'est par cet effet de rotation autour du centre que l'on a la masse de la galaxie. Et donc on sait à peu près que les étoiles sont entre 0, 1 masse solaire jusqu'à 10 masses solaires, par exemple. On a une masse moyenne pour les étoiles et donc on en déduit 200 milliards d'étoiles.
Donc Newton avait raison. Les lois qui régissent notre planète régissent l'univers.
Ah oui, tout à fait. On pense que, en tout cas dans la Voie lactée, c'est exactement comme ça. Par contre, il y a un tout petit bémol que je mettrais à cette universalité des lois. C'est qu'on s'aperçoit que, justement, quand on fait le calcul des masses de la Voie lactée, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de masses que prévu. C'est-à-dire qu'on regarde la luminosité aussi des étoiles et on peut savoir si... les étoiles sont un peu comme le Soleil, on peut savoir quelle est la luminosité totale de la Voie lactée. Et on regarde la masse et on voit qu'il y a un effet de discordance entre masse et luminosité. Et donc, on est obligé d'inventer toute une matière invisible.
Donc, Françoise Combes, vous travaillez sur la matière noire, sur l'objet le moins connu dans l'univers.
Oui, ça c'est quelque chose qui est complètement mystérieux. On sait qu'elle existe. Parce que, justement, on en déduit la masse des galaxies, elle est beaucoup plus grande que la masse visible. Donc on sait qu'il y a un problème. Et justement, on se pose la question depuis au moins 30 ans, puisqu'on sait que depuis 1985 environ, que cette matière doit être de la matière non ordinaire, c'est-à-dire elle ne peut pas être formée de la matière dont nous sommes formés, nous, de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, toute cette matière ordinaire que l'on voit partout. C'est quelque chose qui est une particule exotique, que l'on ne connaît pas. Donc il y a deux mystères ici. D'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'elle existe, cette particule exotique? Dans les accélérateurs de particules, on n'est pas arrivé à la mettre en évidence. Donc au bout de 30 ans, on se demande si vraiment il n'y a pas d'autres alternatives à ce mystère. Et c'est justement là qu'on peut mettre en cause la loi de la gravité qui, si elle aurait été un petit peu changée,
voilà,
loin dans la galaxie, pourrait rendre compte de ce problème de matière invisible.
Donc Françoise Combes, c'est encore une hypothèse.
C'est une hypothèse.
On est qu'est-ce qu'apporte alors cette onde gravitationnelle qui pourrait, dit-on, permettre d'en savoir un peu plus sur cette fameuse matière noire? Alors je rappelle que on a pu les mesurer le 14 septembre 2015 à 9h50 minutes et 45 secondes. Et qu'il s'agit en fait d'une double découverte, la preuve de la réalité des ondes gravitationnelles qui confirment en retour, par une sorte de renvoi d'ascenseur cosmique, l'existence des trous noirs, donc voilà une confirmation, ainsi que la possibilité de leur coalescence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus depuis
ce 14 septembre 2015? Parce qu'en effet, on le cherchait depuis longtemps. On avait construit ces instruments.
C'est une idée d'Einstein, hein,
oui.
Une expérience de pensée extraordinaire.
Voilà, il pensait que, évidemment, cette gravité, Einstein a pensé que c'était pas une force comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une attraction à distance instantanée. Et donc, il fallait vraiment propager quelque chose pour rendre compte de l'interaction entre deux corps. Et surtout, ce n'est pas une force comme les autres parce qu'elle est plutôt une déformation de l'espace. Donc, il faut s'imaginer un espace un petit peu élastique dans lequel chaque masse, chaque grand astre de matière fait un petit trou, enfin, creuse son petit trou.
Ils font rebondir d'une certaine manière, c'est ça?
Et en fait, non, c'est plutôt les rayons lumineux qui sont déviés par toutes les masses.
Ah oui.
Et donc suivent cet espace déformé et ne vont plus en ligne droite lorsqu'il y a une masse qui déforme un petit peu le tapis élastique de l'univers. Et donc, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de très massif qui bouge et qui envoie des ondes gravitationnelles, on devrait pouvoir, nous, détecter cette déformation de l'espace comme des ondes sur l'espace.
Et qu'est-ce que ça nous apprend, donc, de cette fameuse matière noire?
Alors, hélas, pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose sur la matière noire, parce que c'est surtout des objets très compacts, comme les trous noirs. Mais les trous noirs sont des résidus de la vie des étoiles. Les étoiles, en fin de vie, deviennent parfois, lorsqu'elles s'effondrent, en un objet très compact, deviennent trous noirs. Mais ce sont de la matière ordinaire, en fait. Donc, c'est pas de la matière noire. Ça a beau être complètement noir. Alors, pourquoi un trou noir est appelé noir? C'est parce que il est tellement compact que, pour s'échapper, il faudra avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Donc, même la lumière est piégée dans le trou noir. Donc, aucune lumière ne s'en sort. Donc, c'est pourquoi il est appelé noir. Mais, en fait, il n'est pas fait de matière noire.
C'est très différent, donc.
C'est très différent, oui.
La matière noire, c'est un autre objet.
Voilà, un autre objet. Très compact, et il y en a beaucoup dans la Voie lactée, en fait, puisque chaque étoile très massive qui meurt va faire un petit trou noir. Donc on pense qu'il y a des milliards, même des centaines de milliards de trous noirs dans la Voie lactée, de petits trous noirs. Par contre, il y a un énorme trou noir au centre de chaque galaxie, on l'appelle supermassif, et celui-là, il fait entre 1 million et 1 milliard de masses solaires au centre de chaque galaxie. Mais il est toujours fait de matière ordinaire. C'est la matière ordinaire qui est tombée vers le centre et qui enrichit ce
C'est une matière qu'on connaît, qu'on maîtrise, alors que la matière noire...
Elle est faite de particules exotiques et on ne sait même pas de quoi elle est faite.
Vous pensez qu'on le saura forcément, hein?
Ah oui, bien sûr. Je pense que bientôt, puisque les accélérateurs maintenant sont de plus en plus puissants, par exemple le LHC au CERN a des énergies de plus en plus grandes. Donc on a déjà éliminé un certain nombre de particules de faible énergie. Maintenant, on monte en énergie, et bon, jusqu'à une certaine énergie où peut-être on va découvrir cette particule. Enfin, il faut l'espérer. Ou alors, si on ne détecte pas cette particule, alors on pourra développer un peu plus les théories de gravité modifiée, où on change un peu la loi de la gravitation, et on peut se passer à ce moment-là de matière noire.
Au fond, le savoir s'accélère à toute vitesse.
Ça s'accélère de façon exponentielle. Hein. Quand on regarde où on en était il y a 30 ans... C'est complètement différent de ce qu'on sait aujourd'hui. Et on continue. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, on va apprendre énormément de choses sur notre univers.
vous voulez bien, parlons de vos cours au Collège de France, Françoise Combe, qu'on puisse peut-être donner une idée très concrète de la manière dont vous transmettez ce savoir. Alors, 2014-2015, je rappelle que votre chaire s'intitule « Chaire de galaxies et cosmologie ». Donc vous avez travaillé sur le problème de la matière noire et puis le séminaire qui lui correspondait était prononcé par quelqu'un qui s'appelle Rodrigo Ibata, qui vient de Strasbourg, sur la masse manquante dans les galaxies proches. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette énigme ?
Oui. Donc la matière noire, elle se voit à plusieurs niveaux. Donc il y a au niveau des galaxies où en effet la vitesse de rotation de toutes les étoiles et du gaz aussi qui tourne autour du centre nous permet d'en déduire la masse, et notamment dans les galaxies spirales et puis les galaxies naines dont Rodrigo Ibata est aussi un spécialiste. Donc dans les galaxies naines, il y a beaucoup plus de matière noire en proportion que dans les galaxies géantes. Donc c'est celles-là qui sont le laboratoire de matière noire de l'astronome. En fait, on n'arrive pas très bien à comprendre, mais cette matière noire est beaucoup plus grande. C'est 10 fois plus grand que toute la matière visible. Et donc, c'est de cela que nous a parlé Rodrigo. On a pu un petit peu contraindre beaucoup plus quelles étaient les caractéristiques de cette matière noire. Par exemple, nous avons un modèle standard de particules exotiques qu'on dit froides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas agitées de beaucoup de dispersion de vitesse au départ. Et ce modèle explique très très bien les structures à grande échelle, les amas de galaxies, les galaxies. Mais dès qu'on arrive à petite échelle, les galaxies petites, naines, etc., ça ne marche pas du tout. Donc on n'a aucun modèle qui explique vraiment cette matière noire, même dans le cas d'une particule exotique. Donc c'est pourquoi il y a tout ce développement de gravité modifiée. Et là, on a bien discuté, il y avait un débat pour savoir quel était le modèle qui était les plus valables au regard des observations.
C'est une enquête à la Sherlock Holmes.
Voilà, c'est ça, c'est une enquête et on n'est toujours pas arrivé au bout de cette enquête.
Alors, matière noire et particules, par Gianfranco Bertone, Amsterdam.
Oui, alors là, on a fait le tour un petit peu de toutes ces particules. Il faut savoir que le domaine de particules est très, très grand. Certains proposent que ce soit de 10⁻²⁰ électronvolts, enfin pour une unité qui est une unité de masse, et d'autres 10⁻½. Donc on a une vingtaine d'ordres de grandeur entre les masses possibles de ces particules. On ne sait pas si c'est des particules microscopiques ou de très, très massives, beaucoup plus massives que le proton. Donc là, ça montre bien que l'on est complètement ignorant de ce que pourrait être cette matière noire. En fait, le candidat principal, dont justement Gianfranco Bertone a parlé, était un candidat qui est imaginé par la supersymétrie. C'est-à-dire qu'on a un modèle standard de particules qui était vérifié dans les accélérateurs. Et à chaque particule, on va supposer qu'il y en a un supersymétrique, une symétrie. C'est une hypothèse, hein. On n'a absolument pas vérifié cette supersymétrie, mais il y avait un candidat donc pour la matière noire qui s'appelait le neutralino, qui était la particule la plus stable dans cet édifice de supersymétrie. C'était une combinaison d'un Higgs et puis d'une autre particule d'interaction faible. Et puis cette particule devait avoir à peu près 100 GeV, c'est-à-dire 100 fois la masse du proton. Mais on sait qu'en 2012, on a détecté dans le LHC le boson de Higgs, qui est une particule, particule du modèle standard. Voilà, et qui a été une confirmation de tout l'édifice établi pour le modèle standard de particules élémentaires, et qui donne un peu de la masse à toutes les particules. Et celui-là, il fait 125 GeV, donc 125 fois la masse du proton. Mais on voit bien qu'on n'a pas découvert ce fameux neutralino qui aurait dû avoir 100 GeV. Donc, hélas, c'était très bien de vérifier le modèle standard, mais ça n'a pas vraiment vérifié le modèle supersymétrique de particules qui aurait pu fournir un candidat à la matière noire. Donc, ça repousse un peu plus loin en énergie, et puis il va sans doute falloir modifier un peu cette théorie supersymétrique si on veut vraiment trouver cette particule.
Je continue à interroger vos cours et vos séminaires. Donc il y a eu matière noire et particules, et il y a aussi des séminaires, par exemple, sur matière noire et alternatives.
Voilà, justement, les alternatives, c'est celles-là que l'on a beaucoup débattues. Évidemment, elles ne font pas l'unanimité, puisqu'on remet la loi de relativité générale d'Einstein, en fait, on remet en cause. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas complète.
Voilà, juste, mais incomplète.
Voilà, elle est incomplète. Donc on la généralise un petit peu comme Einstein avait généralisé la loi de Newton, tout de même, qui est toujours valide dans certaines circonstances. Mais donc dans le système solaire, la loi d'Einstein s'applique énormément, elle est très vérifiée. Mais il faut faire un pari pour savoir si à faible gravité lorsqu'on est dans un vide extragalactique poussé, où la gravité est 10 ordres de grandeur en dessous de celle qu'on connaît dans le système solaire, est-ce qu'il faut extrapoler cette loi? Donc c'est un pari que l'on fait. Donc comment on peut le vérifier? Il n'y a que l'astrophysique qui va nous permettre de le vérifier. C'est-à-dire, justement, on va mesurer la gravité dans ces vides assez poussés. Et justement, c'est là qu'on a un problème. On voit qu'il y a beaucoup de matière noire à rajouter. Donc c'est peut-être un indice qui nous dit que la loi n'est pas extrapolable et qu'il faut la modifier pour en champ faible. Lorsque la gravité est très faible, il faudrait la modifier. Et c'est là que on a plusieurs hypothèses, toujours, et des modèles dont on a débattu pour savoir quels étaient les avantages par rapport à la loi d'Einstein ordinaire.
Autre question qui vous touche au fond directement, matière noire et cosmologie.
Oui, donc là on a essayé de trouver les observations qui nous permettraient de contraindre cette matière noire. Et en effet, en cosmologie, on a beaucoup d'observations qui me permettent de le faire. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles, qui sont la déformation des objets lointains par toute la masse qu'il y a devant nous. Alors c'est une masse invisible, parce qu'elle ne rayonne pas, mais quand même elle dévie les rayons lumineux. Donc ça nous permet de faire des cartes de matière noire, rien qu'en regardant des milliers de galaxies lointaines qui sont déformées, comme lorsque vous mettez un tesson de bouteille devant un paysage, vous avez votre paysage déformé. Donc là, on peut pas regarder les galaxies très lointaines sans les voir déformées, parce qu'il y a de la matière entre nous et elles. Donc on voit toutes ces déformations et on déduit les cartes de matière noire. Donc on peut faire une carte, même si la matière est invisible, on en fait des cartes. Et c'est un petit peu cela qu'on appelle matière noire en cosmologie. Et donc on va envoyer bientôt, en 2020, l'ESA va envoyer un satellite qui s'appelle Euclide, justement en référence à Euclide qui a fait la géométrie de l'univers. Et Euclide va observer dans l'espace tout l'espace possible, c'est-à-dire 15 000 degrés carrés, presque tout l'univers observable, un petit peu comme Hubble, le télescope Hubble spatial, qui a permis de regarder de façon profonde les galaxies très lointaines, car dans l'espace, on n'a pas le problème de l'atmosphère qui brouille les images. Donc la turbulence de l'atmosphère.
Comment va fonctionner Euclide? Il va être envoyé vers une planète
Non, il est envoyé
dans l'espace. Il va se poser quelque part?
Non, il ne se pose pas. Il va flotter dans l'espace.
Voilà. Hein, il va se promener, filmer.
Comme le télescope Hubble, qui a flotté. Enfin, il était en rotation autour de la Terre, mais à une certaine distance, une grande distance dans l'espace. Donc, et il a permis de regarder. Alors, la différence entre Hubble et Euclide, c'est que Hubble avait un tout petit champ de vue, très profond, mais un petit champ de vue. Et là, il y en aura un très, très grand champ de vue. Donc, on pourra faire énormément de surface dans le ciel. Hein, on pourra cartographier tout le ciel.
Si je vous comprends bien, l'astrophysique fait également évoluer l'optique.
Ah oui, oui. Là, ce sera tout à fait en optique et puis aussi en infrarouge, donc tout proche de l'optique. Mais on pourra voir 12 milliards de galaxies. Et cette cartographie des galaxies qui va nous faire comprendre où est la matière noire, et puis aussi ce nouvel élément qu'on a découvert en 1998, qui est l'énergie noire, qui réaccélère l'expansion de l'univers, et qui est quand même encore un mystère encore plus profond que celui de la matière noire, puisqu'on ne sait pas du tout de quoi c'est fait.
Cette cartographie de la matière noire, est-ce qu'on peut y avoir accès sur Internet?
Oui. Je pense que si vous faites une interrogation sur un moteur de recherche bien connu, vous allez voir des cartographies de matière noire.
Donc il suffit de taper carte.
Si vous le tapez en anglais, ça ira plus vite parce que l'Internet en anglais est beaucoup plus développé, mais je pense qu'en français aussi, vous en aurez des cartes de matière noire.
Donc tous nos auditeurs peuvent avoir accès à ces cartographies. Formidable. Nous allons parler du cours de cette année, 2015-2016, trous noirs supermassifs et galaxies.
Oui, alors là, cette année, c'était en effet la physique des trous noirs auxquels on était intéressés. On sait depuis assez peu, finalement, c'est justement le télescope spatial Hubble qui nous l'a montré, avec sa finesse et sa résolution, nous a montré que chaque galaxie avait un trou noir supermassif au centre. Et donc, on pensait qu'il n'y en avait que quelques-unes. Là, on sait que chacune en a un. Et en général, lorsqu'il avale de la matière, du gaz, des étoiles, il est très, très lumineux. On appelle ce phénomène quasar. Quasi-star, parce que c'est comme une étoile très lumineuse. Et au départ, on pensait que c'était des étoiles, parce que c'est des sources ponctuelles. Mais en fait, c'est ponctuel parce que l'objet est très, très compact. Mais on peut le voir jusque très, très loin dans l'univers, jusqu'au Big Bang. Donc ce sont vraiment des vestiges du passé. Lorsque l'univers avait 5% de son âge, on voyait déjà ces quasars, qui nous servaient de jalons d'ailleurs, puisqu'on peut regarder à partir de ces quasars jusque... jusqu'à nous, on voit des absorptions de gaz entre nous. Donc ces quasars sont comme des jalons qui nous permettent de tracer tout l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers, même entre les galaxies.
Alors, 30 novembre, le trou noir du centre de notre galaxie, et puis le séminaire, thermodynamique des trous noirs et effet Hawking. C'est quoi?
Alors ça, c'est en effet un phénomène assez curieux dont a dévoilé Stephen Hawking au Royaume-Uni, qui nous dit qu'il y avait toute une thermodynamique des trous noirs, c'est-à-dire que les trous noirs rayonnaient. Alors que c'est un peu paradoxal, on avait bien dit qu'un trou noir a une masse tellement compacte que même la lumière ne peut pas en sortir. Alors comment ils rayonnent, c'est assez complexe, c'est que il y a une gravité très très forte autour d'eux, et dans cette gravité, il va se former des paires particules-antiparticules, un positron, un électron. Et à ce moment-là, il y en a une qui va être avalée par le trou noir, et l'autre va se ressortir. Donc finalement, le trou noir perd de la masse, donc il rayonne, il va perdre, et peu à peu il s'évapore. Donc ceci est équivalent à une température de ce corps. Donc le trou noir a une température, et le plus petit a une température plus forte. Et donc les petits trous noirs s'évaporent très très vite. Alors les trous noirs très massifs sont très froids, dans ce terme-là, cette température va être très froide, et ils ne vont pas s'évaporer. Donc les gros trous noirs supermassifs au centre des galaxies ne s'évaporent pas, ils sont là pour plus que l'âge de l'univers.
Autre séminaire, celui du 7 décembre, s'intitule de façon très énigmatique « Disque, tor et jet ».
Alors, en effet, dans tout ce phénomène de quasar, de trou noir, ce qu'on voit, c'est lorsque le trou noir avale de la matière. Alors, cette matière, elle a une certaine vitesse autour, elle ne va pas tomber directement dessus, donc elle va tourner autour et ça va faire un disque. Un disque qu'on appelle disque d'accrétion, parce que c'est par ce disque que le trou noir va accréter de la matière. Donc pendant un certain temps, il y a la matière tourne autour avant d'être avalée. Et comme il faut vraiment échapper toute la rotation, il y a un jet qui va se produire perpendiculairement au disque. Et ce jet, on le voit, il y a des jets de plasma, d'électrons, de protons, qui sont évacués, mais très très loin de la galaxie, hein, à 10 fois le rayon de la galaxie. Et on voit ces jets en radioastronomie, on voit ces rayons, qui sont de rayonnement synchrotron, un peu de ce qui se passe dans les accélérateurs. Et ce rayonnement vient jusqu'à nous et on voit des jets qui sont magnifiques, hein, qui sont...
Oui, ça doit être très très beau.
Qui se développe dans l'espace intergalactique.
Continue avec le cours, si vous voulez bien, Françoise Combes, 2015-2016, donc le cours le plus récent. Votre cours du 11 janvier portait sur la coévolution cosmique trou noir-galaxie.
Oui, alors on s'est aperçu que ces trous noirs n'avaient pas seulement un aspect mystérieux et attractif par leur physique, mais aussi ils avaient une action sur les galaxies elle-même, puisqu'on sait que chaque galaxie a son trou noir.
Donc est-ce que vous voulez dire qu'il a une utilité?
Oui, il a une utilité dans la galaxie. En fait, il modère la formation d'étoiles, c'est-à-dire qu'il modère la croissance de la galaxie. Et on a mis en évidence que le trou noir avait une masse proportionnelle à la masse du bulbe d'une galaxie. Une galaxie spirale, par exemple, a un disque et puis un petit bulbe qui est un petit peu elliptique. Et les galaxies elliptiques n'ont qu'un gros bulbe, en fait, un tout petit disque. Et on sait que le bulbe, en fait, c'est le résultat de la fusion de plusieurs galaxies. Et dans chaque fusion de deux galaxies, les trous noirs aussi fusionnent. Et c'est là qu'on va pouvoir détecter des ondes gravitationnelles à chaque fusion de trous noirs. Donc on en attend beaucoup justement dans le futur. Maintenant qu'on a détecté la première fusion de trous noirs, dans le futur on va pouvoir découvrir beaucoup plus de fusions. Et donc ça va nous apprendre quelque chose sur le nombre de fusions de galaxies qui vont croître et former des galaxies plus grosses. Et donc le trou noir dans cette histoire, il a une action parce que dès qu'il y a une fusion de galaxies ou une interaction entre galaxies, le gaz de la galaxie tombe sur le trou noir, émet des phénomènes très très lumineux, c'est-à-dire que les phénomènes peuvent rayonner 1000 fois plus que toute la galaxie réunie. Donc c'est très très brillant, et donc ça repousse le gaz, et ça arrête la formation d'étoiles, donc la galaxie est arrêtée dans sa croissance. Et donc il y a une modération entre galaxie et trou noir, le trou noir mange un peu de masse, et il empêche la formation d'étoiles, et vice-versa, finalement ils croissent ensemble. Donc la masse du trou noir croît avec la masse de la galaxie, c'est pour ça qu'on a cette relation de proportionnalité entre les deux masses.
Donc il permet au fond de maintenir un équilibre dans l'univers.
Voilà, c'est cela, il y a un équilibre entre trou noir et masse des galaxies.
Le séminaire du 11 janvier portait sur la démographie des trous noirs.
Alors cette démographie, c'est cela justement, quelles sont toutes les populations de trous noirs, les petits trous noirs, les gros trous noirs, comment on les forme. Il y a aussi un mystère parce qu'on observe des trous noirs supermassifs et puis des petits trous noirs. C'est deux types de formations. Les petits trous noirs se forment à la fin de la vie d'une étoile, lorsque l'étoile explose en supernovae. Il y a un résidu compact qui forme un petit trou noir. Et puis, il y a des trous noirs supermassifs, on commence à les observer à 1 million de masses solaires. Et entre 10 masses solaires et 1 million, il y a un trou. Et ce sont les trous noirs de masse intermédiaire qu'on n'a pas encore vus ni mesurés. Donc on suppose qu'ils sont là, et ils doivent être là, puisque sans doute on n'est pas passé à 1 million de masses solaires sans rien, avec un saut brutal. Donc on pense qu'il y a des trous noirs de masse intermédiaire de 1000, 10 000 masses solaires, et on les recherche en regardant les sources de rayons X. Et on a vu des sources de rayons X ultra-lumineuses, et certaines pourraient être des candidats à ces trous noirs de masse intermédiaire. Mais c'est encore un grand mystère. Comment on a pu aller d'une masse de 10 masses solaires, peut-être plusieurs étoiles se sont réunies, rentrer en collision et former un trou noir un peu plus gros, jusqu'à l'autre barrière, 1 million de masses solaires. Et cette barrière-là n'a pas encore été franchie, on ne sait pas exactement comment. Et surtout qu'on observe, au début de l'univers, à 5% de l'âge de la vie de l'univers, on observe des trous noirs supermassifs d'1 milliard de masses solaires. Donc ça a dû être fait en moins d'1 milliard d'années, qu'on a pu passer de 10 masses solaires à 1 milliard de masses solaires d'un coup pour les trous noirs. Donc comment on crut ces trous noirs? Et ça, on ne comprend pas. Donc on a essayé de débattre quelles étaient les possibilités, les scénarios pour faire croître le trou noir jusqu'à 1 milliard de
masses solaires. Quel est votre scénario?
Là, je ne trancherai pas, mais certains disent qu'il y a un effondrement brutal d'une énorme masse de gaz, 1 million de masses solaires par exemple, brutalement en trou noir. Alors pourquoi? Parce que au début de l'univers, il n'y a pas d'éléments très lourds comme le carbone, l'oxygène, etc., qui se forment dans les étoiles. Donc lorsque une masse de gaz s'effondre, elle ne peut pas rayonner son énergie, et donc elle va s'effondrer tout de suite au lieu de se fragmenter lorsque le gaz se rayonne.
Elle va devenir tout à fait compacte.
Voilà, et c'est peut-être la différence entre le gaz aujourd'hui a été enrichi par le carbone, l'oxygène, l'azote, etc., par les étoiles qui ont rejeté tous leurs éléments dans le milieu interstellaire. Mais au départ, ce n'était pas le cas, c'était lors des premières étoiles, on avait du gaz qui était que de l'hydrogène, et donc il avait un comportement différent au gaz qu'on connaît aujourd'hui.
Et ces gaz que les étoiles ont rejetés ont servi à créer la vie?
Voilà, c'est cela. Ils sont accumulés dans les systèmes solaires ou extrasolaires. Et donc, toutes les planètes ont accumulé ces éléments et ce dont nous sommes faits, évidemment, toutes ces molécules organiques. Et ces molécules organiques, on en voit énormément dans l'espace interstellaire. C'est-à-dire qu'on pense qu'elles se forment même avant de former les planètes, dans le milieu interstellaire, entre les étoiles. C'est pourtant un milieu très très froid, 10 degrés Kelvin au-dessus de zéro absolu, un milieu très très vide en fait, on a quelques particules par centimètre cube au lieu de 10 puissance 20 aujourd'hui ici. Donc c'est quelque chose d'assez vide, d'assez froid, et pourtant, il y a tellement de temps, il y a des milliards d'années qui se passent, et bien les molécules se rencontrent, peut-être aussi aidées par des grains de poussière, qui sont formés dans les étoiles, catalysés par ces grains de poussière, et on arrive à former des molécules organiques assez poussées, jusqu'à 13 atomes carbone, ou bien même des structures qu'on appelle polyhydrogénées, qui ressemblent à des noyaux de benzène. Donc on observe des alcools, de l'acétone, des sucres, et même des acides aminés dans l'espace interstellaire. Donc on pense que toute cette matière organique a pu ensemencer des planètes lorsqu'elles se sont formées. pour l'instant, on a les molécules, les briques de base, en quelque sorte, de la vie. Et puis ensuite, parce que lorsque les planètes se forment, par exemple le système solaire, on le sait bien, il y a eu des bombardements terribles dans le disque protoplanétaire qui était formé de beaucoup de matière. Des bombardements, on voit bien la Lune qui n'a pas d'atmosphère, le résidu des bombardements sont des cratères, etc. Et donc la Terre était très 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 chaude. Et donc toutes les molécules organiques n'existaient pas. Mmh. Donc on pense qu'après coup, dans le milieu interstellaire, il y a tellement de molécules organiques qu'on a pu, ça a pu venir de l'espace. Donc c'est l'espace qui aurait ensemencé toute cette vie.
Magnifique. Alors on continue. Le 18 janvier, un séminaire aussi très énigmatique, donc Starburst et noyaux actifs.
Voilà, les noyaux actifs, c'est cela, c'est lorsque le trou noir au centre de chaque galaxie devient actif. Alors, les trous noirs les plus actifs, il n'y en a que 1% des galaxies. C'est-à-dire qu'on pense que chaque galaxie est passée par ce stade, parce que c'est cette activité qui permet d'accréter de la matière et donc de faire croître le trou noir. Mais au bout d'un moment, le trou noir est à la diète, il jeûne, et 90% de son temps, il jeûne. Et puis ensuite, la matière tombe dessus, il va pouvoir croître et former toute cette activité. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui est vraiment... 3 ordres de grandeur au-dessus de rayonnement de la galaxie. Donc ces noyaux actifs, on les observe et c'est ça qui nous permet de comprendre comment croissent les trous noirs. Et ces noyaux actifs, ça peut être actif en rayons X, en optique, en infrarouge, en radio, légers qui sont envoyés dans l'espace intergalactique. Et tout ça, c'est une activité qu'on essaie de comprendre et tous les mécanismes et qu'on a discuté dans cette cour.
On connaît beaucoup de galaxies.
Ah oui, on en connaît au moins plusieurs millions aujourd'hui, 10 millions, où on a vraiment étudié leur distance. Parce que leur distance est connue par l'expansion de l'univers. Donc on regarde le spectre de la galaxie, et par ce spectre, on a le décalage vers le rouge, et on connaît la distance. Et donc on a pu avoir le spectre de 100 millions de galaxies déjà. Et avec Euclide, on en aura avec des milliards de galaxies.
25 janvier. Trou noir binaire, théorie et simulation.
Les simulations numériques, c'est quelque chose de très important en astrophysique parce qu'on a des expériences qui sont les observations. On observe par les ondes électromagnétiques et puis maintenant par les ondes gravitationnelles. Mais on ne peut pas refaire l'expérience. C'est-à-dire en laboratoire, on peut toujours refaire une expérience et en faire 36 et réexpérimenter. Mais là, on est obligé d'attendre que les rayons lumineux nous arrivent et on ne peut pas toucher, on ne peut pas changer les galaxies, on ne peut pas faire des expériences directes. Donc ce que l'on fait à la place, c'est des simulations sur ordinateur. On recrée la galaxie, on la refait tourner et puis on regarde avec quels paramètres on peut tester la formation de tel processus. Et par exemple, on a fait des simulations cosmologiques où on reforme l'univers, en quelque sorte. On remet toutes
Formidable.
Les galaxies dans l'ordinateur.
Racontez.
Et donc on part des conditions initiales qu'on connaît bien, puisqu'on a observé le fond cosmologique, le vestige du Big Bang, qui nous a montré qu'il y avait des fluctuations très très petites. L'univers très homogène, il y a des fluctuations de 1/100 millième de densité. Et on pense qu'avec cette condition initiale de 1/100 millième de fluctuation, on va pouvoir, avec la gravité, faire croître ces fluctuations, avoir un contraste de densité assez grand, pour ensuite former des galaxies, des petites galaxies qui vont ensuite fusionner, former des grosses galaxies. Donc tous ces éléments-là, on les simule dans l'ordinateur.
Vous êtes en train de recréer des mondes.
Voilà, on recrée le monde.
Mais ce qui est surprenant, c'est que ces explosions sont provoquées par de l'infiniment petit.
Il y a en effet un échange entre infiniment petit et infiniment grand. C'est-à-dire que quand on regarde les galaxies, la formation d'étoiles, etc., tout ça dépend de l'atome, en fait, de l'atome d'hydrogène. Comment forme des étoiles? Il faut refroidir. Et ce qui refroidit, c'est l'atome de carbone avec l'oxygène, etc. Donc, il faut absolument avoir maîtrisé la physique de l'infiniment petit, comme vous dites, en effet, pour savoir les conséquences que ça va avoir sur l'infiniment grand. Le nombre d'étoiles qu'on en forme, pourquoi ça explose en supernovae. Par exemple, la supernova explose, et on les suit maintenant pendant, ça explose pendant un mois, elle est beaucoup plus brillante, une étoile devient plus brillante pendant un mois à peu près, et cette luminosité, excès de luminosité, est due à la radioactivité du nickel, par exemple. C'est le nickel radioactif qui fait cette courbe de lumière qui est plus grande. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle est universelle aussi. Et ça nous permet d'avoir comme ça des chandelles standards. Donc on regarde ces supernovae très loin dans l'univers et on sait combien de temps elles durent parce que c'est dû à toujours la même radioactivité du nickel qui explose, et on peut calibrer ainsi les distances, et c'est grâce aux supernovae, par exemple, qu'on s'est aperçu que l'expansion de l'univers était accélérée, contrairement à tout ce qu'on pensait avant. On pensait qu'il y avait une décélération, parce que dans l'univers, il n'y avait que de la matière, donc la matière ne peut qu'attirer et décélérer l'expansion. Et tout d'un coup, on a vu que l'expansion s'accélérait. Donc on a dû inventer cette énergie noire qui a un effet répulsif et non attractif, contrairement à la gravité. On a été obligé, on ne sait pas de quoi c'est fait, mais on avait besoin d'un élément qui accélère l'expansion de l'univers. Et ça, on a pu la détecter grâce à ces petits processus microscopiques, comme vous dites.
Oui, c'est de la physique quantique, ça.
Voilà, exactement. Ah.
Autre séminaire, celui du 1er février, détection des ondes gravitationnelles. En effet, il y a eu cette fameuse découverte qu'on attendait depuis longtemps, je crois.
Oui, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu toute cette
juste
aventure?
Juste un petit détail, ça, c'était un hasard extraordinaire, parce que quand on préparait ce cours sur les trous noirs, c'était au mois de mai. En général, on prépare le mois de mai pour commencer la.
Oui.
Et la détection a lieu en septembre, donc on ne pouvait pas du tout savoir qu'il y avait des détections d'ondes gravitationnelles. Et donc, je comptais parler en février d'ondes gravitationnelles.
Un coup de chance.
Un coup de chance, puisque le 11 février, ça a été annoncé.
Et donc, c'était la première fois.
Pas tout à fait. Enfin, on avait une détection indirecte de ces ondes gravitationnelles.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe?
Voilà. La détection indirecte, ça a été en 1975, par des pulsars. Alors, les pulsars, c'est des étoiles à neutrons qui émettent des pulses, d'où le nom de pulsar. L'étoile à neutrons, c'est une étoile en fin de vie, qui n'était pas assez massive pour devenir un trou noir, mais elle est restée à l'état d'étoile à neutrons. C'est un astre très très compact, mais pas encore assez massif pour s'effondrer en une singularité.
Un objet neutre, alors vous voulez dire
oui,
quelque chose comme ça.
Oui, et neutrons, c'est-à-dire que tous les protons sont tellement concentrés avec les électrons qu'ils forment des neutrons. Il n'y a que des neutrons. Et elle tourne très très vite, parce qu'elle est très concentrée, donc elle tourne très vite sur elle-même, et elle émet un pulse vers l'observateur à chaque fois qu'on le voit. Et cette période, ça peut être la milliseconde. Elle tourne en une milliseconde. Donc c'est une étoile qui a une rotation très rapide. Et donc ces pulsars sont des objets très précis, ce sont des horloges, hein, puisqu'on a la milliseconde à chaque fois. Et lorsque les deux pulsars sont binaires, il y a des ondes gravitationnelles qui s'émettent, et donc elles perdent de l'énergie. Donc la période de rotation l'une autour d'elles va diminuer, et puisqu'elles vont se rapprocher les unes des autres, parce qu'elles perdent leur énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Donc on a monitoré, enfin on a fait une chronologie de ces pulsars, de cette période, et avec 10 à 14 même chiffres significatifs, on a pu mesurer cette période de millisecondes à une grande précision, et voir comment elles perdaient de l'énergie, et ça ne marchait qu'avec des ondes gravitationnelles. Donc on avait déjà pu vérifier l'existence de ces ondes de façon indirecte en mesurant la période de ces pulsars. Et c'est ce qui a donné le prix Nobel à l'époque-là de Hulse et Taylor qui avaient découvert ces pulsars. Donc depuis 1975, on savait qu'elles existaient, mais on n'avait pas mesuré directement la déformation de l'espace que l'on a mesuré en septembre 2015 avec LIGO et Virgo, qui sont des interféromètres qui nous permettent de détecter par des lasers, des interférences de laser, détecter des différences de longueur de 10 puissance moins 22. Une longueur de 4 km, on mesure quelque chose qui a moins que la taille d'un atome. Donc c'est vraiment un exploit technique de mesurer cette différence de longueur.
Serge Haroche, par exemple, racontait que quand il était jeune homme, le laser servait au fond à rien du tout. Et juste à être utilisé dans les films de James Bond pour découper des tôles. Et au fond, c'était une découverte intéressante, mais qui était tout à fait inutile et qui est devenue aujourd'hui de première utilité,
ah oui,
si je
tous
comprends
les jours,
bien.
Oui, avec les disques, les CD-ROM, tous nos matériels électroniques se servent du laser. Et dans les laboratoires, évidemment, on se sert du laser pour asservir beaucoup de systèmes électroniques. Et notamment, donc, ces systèmes d'interférométrie laser. Donc, c'est quelque chose de très puissant et monochromatique et qui est cohérent pendant très longtemps. Donc, ça nous permet de faire des cavités. Donc, dans l'interféromètre LIGO, on n'a pas seulement 4 km, mais on a une cavité où on fait résonner le laser 1000 fois. Donc, ça nous équivaut à une longueur de 4000 km. Donc, ça démultiplie la possibilité de détecter des petites longueurs.
C'est très intéressant de voir que cet univers que nous observons en nous promenant est lié à l'infiniment petit, alors qu'on a au contraire l'impression d'un infiniment grand. Et vous ne cessez de nous parler de milliardièmes de millimètres.
Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste assez grand entre l'énorme précision nécessaire pour mesurer cette déformation de l'espace et puis l'énorme masse qu'il a fallu, parce que la première détection, donc en septembre dernier, c'était 2 trous noirs de 30 masses solaires. Et la dernière émission, celle qu'on a détectée, la plus grosse des ondes gravitationnelles, a été faite en moins d'une seconde. Et en moins d'une seconde, ils ont perdu 3 masses solaires. Parce qu'il faut énormément d'énergie pour déformer l'espace. Donc la somme de ces 2 trous noirs aurait dû faire 60. Elle a fait 60 moins 3 masses solaires, puisque toute cette énergie, on sait que E égale MC2, ils ont perdu énormément d'énergie pour déformer l'espace. Et comme c'était quelque chose qui était à des milliards d'années-lumière, il a fallu que toute cette onde, cette déformation nous arrive après des milliards d'années-lumière quand même.
Est-ce que c'est fréquent?
On pense qu'il y a énormément de fusion de trous noirs parce que le volume est très grand. Il n'y en a pas de très proche. C'est pour ça qu'ils l'ont détecté dans des galaxies assez lointaines. Et on pense, il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont détecté déjà 3 ou 4 de fusion de trous noirs. Évidemment, on ne détecte que les plus massives.
Bien sûr.
Et il y en a sans doute, peut-être il y en a une par jour, hein, si on descend à des masses plus petites.
Ça va très vite.
Ah oui, ça va très vite, hein, parce que le nombre d'étoiles dans l'univers est si gigantesque qu'il peut y en avoir une par an. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les sursauts gamma, quelque chose qui avait été détecté dans les années 70 par les militaires. Ils pensaient que c'était la guerre des étoiles et que chaque militaire s'envoyait des rayons gamma. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un phénomène astrophysique. Et ces rayons gamma, on a envoyé ensuite des satellites, lorsqu'on a compris qu'ils étaient cosmologiques. On a envoyé des satellites pour détecter ces rayons gamma et on en détecte un par jour. Et on pense que c'est justement quelque chose qui est soit une hypernova, c'est bien plus énergique qu'une supernova, ou alors des fusions d'étoiles à neutrons ou des fusions de trous noirs. Donc c'est un petit peu le parallèle. On pense que à chaque fusion de trous noirs, il y aura peut-être un sursaut gamma. Comme les sursauts gamma, il y en a un par jour qu'on détecte. D'où cette fréquence peut-être entre les fusions d'objets très massifs comme fusion d'étoiles à neutrons, fusion de pulsars ou fusion de trous noirs.
Et voilà. 13h25, premier jour. 0h32, deuxième jour.
Les télescopes optiques ont permis d'apercevoir les cratères de la Lune et les hypothétiques canaux de Mars. Mais leur portée était limitée, et la soif de connaître, l'appétit de science que tout homme porte en lui, ne pouvait se satisfaire qu'en brisant les chaînes de la gravitation qui le maintenait sur sa planète natale, la Terre. Le projet Mercure donna le feu vert à une centaine d'autres projets qui le pousseraient encore plus loin, tels que le projet Adonis. Un laboratoire flottant dans l'espace à des millions de kilomètres au-dessus de la Terre, un petit satellite fragile relié à notre monde par la radio.
Nous avons parlé donc du cours que vous avez donné cette année. Quelles sont vos perspectives? Sur quoi travaillez-vous actuellement? Comment conduisez-vous la recherche sur la matière noire? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent finalement à votre discipline, Françoise Combes?
Oui, il y a beaucoup de mystères. En fait, on a beaucoup appris, hein, bien qu'on ait beaucoup appris ces dernières
années.
Plus
on apprend, plus le mystère est...
Et voilà, le mystère se corse. On sait qu'on ne sait rien, mais avant on ne le savait pas. Donc on a quand même appris quelque chose. On a appris donc qu'il y avait 70% du contenu de l'univers qui était cette énergie noire. Ça, c'est assez récent, 16 années. On sait que la matière noire, ça c'est un peu plus ancien, mais on n'a toujours pas résolu le problème. Donc nous, de notre côté, on fait des simulations numériques de galaxies pour savoir si on peut contraindre par la fusion de galaxies, par exemple, comment se comporte cette matière noire, et est-ce que on peut reproduire toutes les observations avec une gravité modifiée, par exemple, donc ce modèle alternatif. Donc sans arrêt, on fait des simulations dans les deux sortes de modèles, gravité modifiée et matière noire, pour voir quels sont les avantages et s'il n'y avait pas des observations qui pourraient trancher entre ces deux. Donc on fait des simulations de formation de galaxies, mais aussi d'interaction, de fusion. Normalement, dans un modèle de gravité modifiée, on devrait avoir beaucoup moins de fusion de galaxies. Donc justement, lorsqu'on aura, par exemple, un satellite comme LISA qui va détecter les ondes gravitationnelles dans l'espace, donc des trous noirs plus gros que ce qu'on peut faire au sol, puisqu'on aura des bras d'interféromètres plus grands, donc des trous noirs plus gros, on pourra mesurer les trous noirs supermassifs qui sont au centre de chaque galaxie. Et on peut savoir combien il y a de fusion. Et donc peut-être ça pourra trancher entre ces deux modèles de matière noire, puisque normalement on devrait avoir beaucoup moins de fusion dans la gravité modifiée que dans le modèle matière noire. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait déjà faire des simulations pour contraindre.
Qu'est-ce qu'on a actuellement comme observatoire dans l'espace
Il y a toujours le télescope Hubble, spatial Hubble. Il y a aussi des satellites X comme Chandra, qui a permis de détecter comme beaucoup de trous noirs comme ceci, avec un satellite européen XMM Newton, qui est le satellite X en rayons X européen. Il y a aussi des satellites infrarouges qui sont lancés. Il y a eu le satellite Planck qui a été lancé en 2009 aussi avec Herschel, européen. Et Planck a permis justement de faire progresser notre connaissance du début de l'univers puisque c'était les fluctuations du fond cosmologique et a permis de détecter par exemple le degré d'expansion avec beaucoup de précision et puis montrer que les neutrinos, on suppose, n'existaient peut-être pas et avec 3 neutrinos mais pas 4. Enfin, on suppose qu'il y a peut-être une autre source de neutrinos qui serait en dehors du modèle standard, des neutrinos stériques qui pourraient peut-être faire la matière noire, mais apparemment ils ne sont pas tellement favorisés.
Finalement, on a affaire à une matière totalement inconnue et
absolument totalement inconnue.
On peut trouver peut-être une énergie nouvelle d'ailleurs.
Oui, alors là, on a déjà le problème de l'énergie noire. Oui. On essaie de le détecter, donc avec le satellite Euclide, on pourra détecter, parce qu'avec ces milliards de galaxies qu'on va cartographier, on va pouvoir, avec très grande précision, de savoir comment elles se sont éloignées les unes des autres et, disons, avoir une expansion. Et si l'expansion est régulière, on pourra dire que cette énergie noire, c'est une constante cosmologique, comme avait prédit Einstein peut-être, mais qu'il avait dit que c'était une très grande erreur dans sa vie et que finalement, il n'y croyait pas du tout. Maintenant, elle est remise au goût du jour. Donc, il faudra modifier cette gravité avec une constante cosmologique. Ou alors, si elle n'est pas constante, c'est-à-dire qu'on pourra savoir à quel degré les galaxies se sont entrées en expansion, à ce moment-là, il faudra inventer un cinquième élément, quintessence, donc ajouter une cinquième force. Et donc, c'est là que les astronomes travaillent aujourd'hui, c'est... Quelle est cette cinquième force et ce cinquième élément? On connaît déjà 4 forces qui sont la gravité, l'électromagnétisme, les forces électriques, magnétiques. Il y a la force faible et la force forte. C'est 2 forces nucléaires qui ont été bien identifiées dans les accélérateurs. Donc on a ces 4 forces, 2 nucléaires, 1 électromagnétique et 1 gravitationnelle.
Ça marche très bien les accélérateurs de particules?
Oui, au contraire, le LHC est vraiment le principal accélérateur aujourd'hui, c'est le plus puissant. Il va re-rentrer en énergie bientôt, là, puisqu'en général, l'hiver, il fait une pause, puisque les problèmes d'énergie sont très importants et ils consomment beaucoup d'énergie. Et puis, au printemps, il redémarre et on va explorer d'autres énergies encore plus grandes. Et on a justement appris qu'il y avait certaines rumeurs que peut-être qu'il y aurait un événement à 750 GeV qui est qu'ils ont détecté un 10 photons, c'est-à-dire 2 photons résonnant quelque part, qui serait peut-être l'incidence d'une particule. Alors ce sont des rumeurs, donc il faut vraiment être très prudent, quelque chose qui aurait une petite bosse qui aurait quelque part. Bah, tout le monde s'agite beaucoup et ça a été la rumeur a commencé en décembre et il y a déjà eu 300 papiers au mois de janvier là sur l'événement. Donc on voit que les physiciens s'agitent beaucoup, enfin bon, c'est pas sûr qu'il existe, mais lorsqu'il reviendra en fonctionnement, on pourra poursuivre et savoir s'il y a quelque chose de nouveau.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se préparent à devenir astrophysicien? Est-ce que c'est une discipline qui passionne, qui intéresse, qui attire la jeunesse?
Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont soit attirés par la cosmologie, le problème des origines aussi de l'univers, et puis aussi des planètes extrasolaires, parce qu'on a découvert 2000. Il y a beaucoup de, évidemment, de savoir, de mystères, comment sont arrivées ces molécules, l'astrobiologie, les molécules qui vont pouvoir donner lieu à la vie, etc. Est-ce qu'il y a des signes de vie dans les planètes habitables, quand on dit habitables, là où il y aura de l'eau, etc. Tout ça est en train d'être recherché. En fait, on a des instruments aujourd'hui déjà au sol qui permettent de faire les images d'une planète. On pourra bientôt savoir s'il y a, par exemple, des océans, des forêts, etc. Ce serait une première, quand même. On aura bientôt aussi ce qu'on appelle ELT, c'est Extremely Large Telescope, que les Européens sont en train de construire au Chili. Donc ce sera un télescope d'environ 40 mètres, au lieu des 10 mètres qu'il y a actuellement. Et donc on pourra avoir des instruments qui auront beaucoup plus de puissance pour avoir ces petits, les images de ces objets faibles que sont les planètes, qui sont juste en train de réfléchir la lumière de leurs étoiles, ils ne sont pas en train de briller elles-mêmes. Donc tout cela va être, dans les prochaines années, exploré, et on aura peut-être les détections de forêts dans d'autres planètes. Et je pense aussi que dans le futur, on a beaucoup de télescopes qui vont arriver. On a ALMA qui commence à être en fonctionnement au Chili, c'est un radiotélescope de 64 antennes. On va avoir aussi un télescope en centimétrique qui fera comme surface 1 km².
Ah, c'est énorme,
Ce sera en Australie, en Afrique du Sud. Et puis on lance des satellites, Euclide et d'autres. Et donc là, on va avoir encore une révolution dans les années qui viennent, dans les 10 ou 15 années qui viennent. Donc c'est très passionnant. Et donc les étudiants qui veulent venir, venez et persévérez.
Il faut faire preuve à la fois d'une grande connaissance en physique, mais aussi de certaines imaginations.
Voilà, une curiosité et imagination. Et je pense que les astronomes n'en manquent pas. Quand on regarde tout ce qui sort, là, des 36 modèles qui sortent pour la matière noire, je pense qu'ils ont beaucoup d'imagination.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec aujourd'hui Françoise Combes, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain avec le professeur Alain Fischer, titulaire de la chaire de médecine expérimentale. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.
50, 40, 30, 90, 10.